l'admet généralement, que les mots sciences de démocratie et de libéralisme se recouvrent. Un régime politique serait d'autant plus libéral qu'il serait plus démocratique et réciproque. Cependant, l'expérience historique ne confirme pas une telle réciprocité. Si nous nous bornions au temps moderne, les anciennes colonies espagnoles sont absolument démocratiques, se sont données des gouvernements démocratiques, parlementaires ou présidentiels. Or, la plupart de ces démocraties ont dégénéré en dictature militaire. On a vu la République de Sun Yat-sen, attendue à Mao Zedong, et les institutions démocratiques en Turquie, en Birmanie, au Pakistan, au carré, ont cédé la place à l'armée. En Europe, on a déclaré que la Première Guerre mondiale était le triomphe de la démocratie dans le monde. Or, les jeunes démocraties, issues de la chute des monarchies, ont dégénéré quelques années plus tard en dictature. Le cas de la France est tout à fait significatif. La première démocratie a abouti au Premier Empire, la seconde au Second Empire, la troisième au régime de Vichy, et la quatrième au gouvernement personnel du général de Gaulle. Les concepts de démocratie et libéralisme ne se recouvrent donc pas nécessairement. Souvent, la démocratie débouche effectivement sur la dictature. De là résulte le problème des rapports entre la démocratie et le libéralisme. Si l'on veut aborder ce problème, il faut recourir aux définitions originelles de ces mots. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. À strictement bien parler, cette définition ne convient qu'à la démocratie directe, c'est-à-dire au peuple assemblé ou en commune, qui nomme les magistrats et qui les suppriment. Jean-Jacques Rousseau, comme vous le savez, ne voulait pas connaître d'autres formes de démocratie. Appliquée au grand État, la démocratie ne peut être que représentative. Le peuple élu au suffrage universel des députés qui constitue le corps législatif. Logiquement, la démocratie représentative implique une assemblée législative unique et un gouvernement d'assemblée qui en mène l'exécutif. Comme le disait Thiers, le peuple ou la nation ne peut avoir qu'une voix, celle de la législation nationale. Le bicamérisme qui divise le corps législatif, la séparation des pouvoirs qui les limite l'un par l'autre, le fédéralisme qui les décentralise, sont des subterfuges imaginés en défiance du gouvernement populaire. Le libéralisme, c'est tout autre chose. Le libéralisme considère que l'individu est la fin en soi de l'institution sociale, c'est-à-dire que l'ensemble des pouvoirs publics qui constituent l'État est fait pour garantir de toute la force du corps social les libertés individuelles, dont le citoyen n'aliène que ce qui est strictement indispensable pour la survie de la société. En bref, la démocratie est fondée sur la souveraineté populaire et ne connaît d'autres règles de droit que le vote majoritaire des assemblées élues. Le libéralisme est fondé sur la souveraineté de la personne humaine et reconnaît, au-dessus de la volonté majoritaire des assemblées élues, les droits de l'homme et du citoyen qui viennent limiter le pouvoir des législatures et des gouvernements. Ces principes et ces buts sont différents. Comment est-on parvenu à croire qu'ils se retrouveraient mutuellement? On a cru, en vertu d'un raisonnement théorique, que l'expérience a semblé vérifier à l'origine des gouvernements démocratiques. Ce raisonnement théorique est le suivant. Le pouvoir dans les démocraties étant délégué par ceux qui en supportent les charges, il semble que ces derniers ont intérêt à ce qu'ils soient exercés avec le minimum de contraintes. Ou surplus, tous les citoyens étant à l'origine, l'expérience est confirmée cette galère. Le suffrage universel, en établissant l'égalité civile et politique, l'égalité devant la loi, devant l'impôt, a supprimé les privilèges et les servitudes féodales. Il a ouvert à la compétence et au mérite des professions qui étaient jusqu'alors fermées, supprimant comme ensemble les corporations et les jurances, il a libéralisé le commerce et l'industrie, il a provoqué la promotion des classes laborieuses et la circulation des élites, c'est-à-dire il a réalisé en somme le type d'une société ouverte. Pour que les électeurs et les candidats puissent confronter leurs opinions, la démocratie doit établir la liberté d'expression, la liberté de réunion. En un mot, elle permet la libre discussion dans les assemblées, la libre concurrence sur les marchés et la libre compétition sur la place publique. Dans ces conditions, comment peut-on expliquer que si fréquemment les démocraties aient dégénéré en dictature? Le passage d'un régime démocratique à une dictature civile militaire peut se réaliser en vertu même du principe de la souveraineté populaire. Si la souveraineté populaire ne reconnaît rien au-dessus de la volonté majoritaire des assemblées élues, si elle est l'unique source du droit, les représentants du peuple pourront l'invoquer pour tout oser et tout exiger. Ce qu'on peut menacer que l'ancien régime de droit divin ne reste au défaire, comme le dit par exemple la première République française, à savoir d'imposer la constitution nationale, la conformer les lois du maximum, c'est-à-dire une planification de la vie économique, une militarisation de toute la société, et avec la loi du suspect et des otages, la suppression de toutes les garanties individuelles, une assemblée élue au nom de la souveraineté populaire peut le réaliser. En effet, le peuple souverain, pour faire usage de son autorité, doit procéder à une organisation du pouvoir. Comme le peuple ne peut l'exercer dans les grands États directement par lui-même, il délègue ce pouvoir à ses représentants et l'entend dans ce que Nicolas a appelé la loi des reins des oligarchies. La condition du pacte social qui veut, selon Rousseau, que chacun advienne autant de droits qu'il en acquiert sur ses propres concitoyens, c'est cette valeur. En réalité, chaque citoyen, tout en ayant le sentiment de s'être donné à tous, ne s'est effectivement donné qu'au petit groupe de ses représentants. Ceci se trouve en dehors de la condition commune du contrat social est le résultat de ce que les citoyens s'adressent à la communauté, peut-être l'établissement d'un pouvoir qui leur ose tout ce qu'ils ont. Rien n'empêche, en effet, en cas de crise, une assemblée dépositaire de la souveraineté du peuple de déléguer tous ses pouvoirs à un comité de salut public, un directoire, un chef unique, qui imposera sa volonté particulière au nom de la volonté générale. C'est ainsi que Napoléon déclarait, empereur, consul, soldat, je tiens tout du peuple, ma volonté est celle du peuple, les droits sont les tiens, mon honneur, ma gloire, mon bonheur, ne peut être autre que l'honneur, la gloire, le bonheur des Français. Napoléon III, en se faisant féliciter après le coup de décembre, je ne disais pas autre chose, et vous savez comment Mussolini et Hitler déclaraient aux ministres anglais et français, nous sommes les vrais démocrates, car seuls nous sommes plébiscités à 95%. Une autre raison, celle-ci d'ordre économique, qui explique la tendance des démocraties à accroître sans cesse les pouvoirs de l'État, se déduit une remarque très simple d'Aristote. Dans une société, Aristote déclare que le nombre des pauvres, tout au moins de ceux qui se considèrent comme tels, différent que celui des riches. Dès lors, si le pouvoir appartient au nombre, les électeurs revendiquants qui font la main, l'utiliseront pour exiger des avantages, des largesses étatiques dans les classes possédantes durant les frais. Les élus qui auront sollicité leur suffrage se livreront à des surenchères démagogiques pour assurer leur réélection. Le taux des largesses étatiques se comptabilisera sous la forme de charges budgétaires toujours croissantes qui conduiront à l'inflation ou l'évaluation en cascade, à une fiscalité écrasante. Devant la fuite des capitaux, l'État devra établir les contrôles d'échange. Devant le refus de la banque d'émission d'accroître la masse monétaire en circulation ou d'extenser de fausses créances, on nationalisera la banque d'émission. Devant la répugnance des capitaux privés à s'investir, entrera par voie de taxation les fans des armées forcées. Et en bref, on sera conduit peu à peu à nationaliser le crédit et à planifier progressivement toute la vie économique. Les citoyens seront de plus en plus administrés, de moins en moins capables, partis de la complexité des fonctions croissantes de l'État, de contrôler les comptes de la nation, de suivre l'établissement et l'exercice d'un budget. De plus en plus, les organes planificateurs irresponsables décideront des options fondamentales et renouvelant l'histoire de la France. Sorcier, l'individu, après avoir versé les flots de sang pour se libérer, deviendra l'homme certes de cette spécialité d'autant plus inhumaine qu'elle est anonyme, la bureaucratie humaine. Il existe pourtant des démocraties dans les petits États et dans les États anglo-saxons que l'on veut qualifier de démocratie libérale en vertu de quelles institutions, à l'aide de quelles procédures, ont-elles évité de sombrer dans la dictature? Eh bien, les premières sauvegardes qu'on a imaginées, c'est évidemment le régime censitaire, le suffrage restreint à un ou plusieurs degrés. On sait comment lentement s'est établi en Angleterre le suffrage universel. Un second parcours a été le bicamérisme, quelle que soit la représentation de la chambre haute, que ce soit une représentation des États comme dans les États fédéraux, que ce soit une représentation des communes, des indirects ou des notables, la chambre haute a pour fonction que par ce mode de son recrutement, de modérer les passions partisanes et la politique à courte vue d'une assemblée populaire. Les juristes, les légistes du XVIIIe siècle ont imaginé des procédures beaucoup plus subtiles encore. La plus efficace est sans doute ce que les fédéralistes américains ont appelé la constitution limitative, c'est-à-dire une organisation du pouvoir qui limite le pouvoir des législatures et des administrations par le respect d'un certain nombre de libertés individuelles et franchises publiques inscrites dans une constitution. Une constitution limitative implique la distinction radicale entre le pouvoir constituant et le pouvoir législatif, la subordination de la loi votée par le Congrès ou le Parlement à la loi constitutionnelle, c'est-à-dire le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois, et certainement la grande innovation des légistes américains à la fin du XVIIIe siècle. Le souverain cesse d'être le peuple pour être la constitution, et c'est ainsi que sous la monarchie de Juillet en France, les doctrinaires s'écriaient « Le souverain est la charte ». Montesquieu a établi que tout pouvoir tend à être oppressif, despotique, et que seul le pouvoir le convient au pouvoir, de là est résultée la célèbre théorie de la séparation des pouvoirs, ou plus exactement, pour ne pas bloquer l'appareil étatique, dans la mesure où ils s'engrènent l'un sur l'autre, la théorie de la convergence. renversement du despotisme est fondée sur la souveraineté populaire. La première feuille de la Constitution, écrite sous poussière, le véritable souverain est reconnaît au-dessus de la volonté majoritaire des assemblées élues les droits de l'homme et du citoyen qui viennent limiter le pouvoir des législatives. La seconde fait de la volonté majoritaire des assemblées élues le véritable souverain et ne reconnaît au-dessus de cette volonté aucun principe de droit naturel, aucune règle morale, aucune norme de bien commun. La première admet la légitimité de l'opposition qui cherche par la persuasion à modifier la majorité, mais qui défend les libertés individuelles, locales, familiales, contre les empiètements d'État. La seconde, au contraire, considère que toute opposition est une opposition contre la volonté du peuple, c'est-à-dire est une conspiration contre le peuple, est un attentat à la sûreté de l'État et doit être impitoyablement de ce fait éliminée. En définitive, la démocratie libérale protège l'individu et les corps intermédiaires, les collectivités locales, contre l'arbitraire du pouvoir central. La démocratie populaire favorise l'usurpation d'une oligarchie qui gouverne au nom du peuple, au nom de sa souveraineté, et c'est ainsi que la démocratie populaire a dégénéré dans maintes cités de l'Antiquité en tyrannie, en principat dans la Rome républicaine, en seigneurie dans les communes italiennes, en pronunciamento dans les États sud-américains, en socialisme dictatorial au XIXe siècle, et on peut dire que Napoléon, Mussolini, Hitler, Staline sont les fruits naturels de cette forme de démocratie qu'il reconnaît comme loi suprême que la volonté populaire.